parole de Dieu maintenant pour la prédication de la parole. Vous avez reçu, je pense, est-ce que vous avez reçu un petit signet noir, hein? Il y en a au fond. Si vous n'avez pas reçu, vous pouvez l'avoir. Donc nous allons entamer l'étude du livre de Malachie. Hein? Donc Malachie, c'est facile à trouver dans la Bible. Enfin, c'est facile à trouver. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc c'est avant Matthieu. Donc vous pouvez trouver très facilement. Donc le frère Michael a fait ce petit signet que vous pouvez marque-page que vous pouvez mettre dans votre Bible sur lequel il a mis un petit peu un résumé très très large hein, du message de Malachie. Alors l'Église dans le Val-de-France fait aussi la même étude que nous, donc ils seront au même niveau que nous, comme ça quand on va se retrouver, on ne sera pas trop en décalage, sauf quand il y aura des choses exceptionnelles. Donc si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas de le prendre. Derrière, vous avez, ici vous avez un petit peu un plan, c'est une proposition de plan hein, du livre de Malachie. Alors le mot souveraineté écrit en Dieu souverain, c'est écrit encore en anglais, mais vous allez comprendre, hein. Et puis derrière, vous avez un petit histogramme. Alors c'est bien de situer un petit peu les choses. Parfois, on ne sait pas où se situe. On parle de David et puis on ne sait pas si David était avant Abraham, s'il était après Jésus. On ne se rappelle plus. Ça arrive que des fois, on mélange tout, on mélange les dates. Et on n'a plus maintenant l'apprentissage des dates en cours d'histoire, hein, comme c'était dans le temps, mais c'est bien de savoir un petit peu où se situe Malachie. Enfin, et là ici, le frère nous a mis Jésus-Christ et puis tout ce qui est avant, il a mis moins, d'accord. Donc on peut situer à peu près où se situe Malachie. Donc à peu près 430 ans avant la venue de Jésus-Christ. Hein. Mais vous avez aussi, hein, peut-être vous pouvez voir où se situe Abraham. Hein, aussi moins 2050 avant, donc ça vous donne une idée un petit peu quand vous lisez les livres de la Bible de situer un peu les choses. Alors Malachie, c'est le dernier prophète livre, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament dans l'ordre du canon biblique, hein, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique de notre Bible, mais c'est aussi le dernier prophète reconnu. Hein. Donc il a donc d'inspiration divine. Donc Malachie, c'est un prophète qui à la fois jette un regard, on peut dire, sur le passé et puis aussi sur l'avenir. Si vous regardez la fin de son message, Malachie chapitre 3 déjà, il dit: voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain rentrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Et puis au chapitre 4 et au verset 5, il dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Et quand on lit les évangiles, hein, on comprend, Jésus lui-même, il l'atteste, hein, que l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Hein. Donc ici, il annonce la venue de Jean-Baptiste, mais aussi en parlant du messager de l'Alliance, il annonce aussi la venue de Jésus-Christ. Et après Malachie, eh bien, il y a 400 ans de silence, pas de prophète. Donc c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et puis 400 ans plus tard, on a la venue de Jean-Baptiste. Donc on pourrait dire que Malachie tend un peu les bras entre l'ancienne alliance et la Nouvelle Alliance. Donc c'est un livre dans une position de transition, et c'est très intéressant de voir un peu ce que Dieu dit à travers ce prophète. Donc il se situe, on l'a dit, hein, à peu près aux années 430, entre les deux voyages de Néhémie. Hein. Donc si vous venez parfois le mardi, on étudie le livre d'Agée. Hein. Donc Agée, c'est à peu près aussi à la même époque, hein, la reconstruction du temple. Et là, Malachie, lui, se situe après la reconstruction du temple, parce qu'on voit ici dans le livre de Malachie qu'il y a des sacrifices qui sont offerts, donc le temple il est construit ici. Et donc les sacrifices sont repris, le culte a repris, et donc les choses sont célébrées. Donc on appelle cela, les spécialistes disent que c'est un livre post-exilique, donc il se situe après l'exil de Juda à Babylone, donc après le retour de Babylone vers Jérusalem. Alors ce livre présente très certainement un intérêt pour nous. Souvent on peut dire, c'est l'Ancien Testament. Moi, c'est le Nouveau Testament, c'est ce qui est, je pense que c'est là qu'il faut s'attacher. Mais ce livre présente beaucoup d'intérêt pour nous, de par sa position, de par ce qu'il annonce, mais aussi parce que c'est un livre qui nous révèle la relation que Dieu entretient avec son peuple. Ça parle de culte. Hein. Et donc, c'est important pour nous de voir comment les choses se sont passées, comment les choses se passaient à cette époque. Et puis, surtout parce que ce que les hommes ont été avant, c'est ce que nous sommes aussi aujourd'hui. Et l'apôtre, Étienne le disait, hein, dans son long discours dans Actes chapitre 7, il dit aux pharisiens, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et on peut dire, ce qu'ils ont été, nous le sommes aussi. Nous ne sommes pas pires, mais nous ne sommes pas non plus meilleurs, hein, que ceux qui nous ont précédés. Et puis, la Bible dit aussi que Dieu est le Dieu qui ne change pas. Donc, nous sommes pareils que ceux qui étaient auparavant, et Dieu est un Dieu qui ne change pas. Donc, il y a fort à penser que la relation, la nature de la relation qu'il y avait à cette période, eh bien, peut nous enseigner beaucoup de choses sur la nature de la relation que nous entretenons en tant qu'enfants de Dieu avec Dieu lui-même. Alors on peut dire beaucoup de choses ce matin sur ce livre, mais ce qu'on va faire dans un premier temps, enfin ce que je me propose de faire ce matin, c'est plus un survol très rapide. Alors vous allez peut-être être frustré parce qu'il y a des choses qu'on peut pas voir, mais on va revenir après sur un peu plus en détail dans l'intérieur du livre, mais on veut peut-être situer un peu un cadre. Une grosse pensée générale sur ce livre du prophète Malachie. Ce qu'on pourrait voir ce matin, c'est un petit peu comment Dieu parle, comment Dieu voit le culte que lui offre ce peuple à cette époque. Bon, nous sommes là, ici, dans un culte, hein, bien entendu. Chaque semaine, nous venons dans un culte. Mais imaginez que voilà, Dieu écrive et puis qu'il dise, voilà, je vais leur faire savoir comment moi je vois ce culte, comment je vis ce culte qui m'est offert semaine après semaine ici à Saint-Denis. Qu'est-ce que nous penserions? Peut-être si on demandait d'écrire notre propre culte, nous écrions d'une certaine manière ici. Mais est-ce que Dieu écrirait la chose de la même manière que nous? Alors, bien entendu, quand on lit, le frère Ebenezer a lu quelques passages ce matin, on est tout de suite d'emblée on voit tout de suite que le peuple rendait à Dieu un culte que Dieu n'agréait pas. Hein. Le temple était construit, les sacrifices avaient repris, mais il y avait un certain formalisme dans le culte que ces personnes, que les sacrificateurs, que le peuple rendait à Dieu. Ils volaient Dieu, ils offraient, on a lu, des bêtes qui étaient infirmes. Bref, il y avait un culte, mais ce culte n'honorait pas Dieu. Et Dieu dit même que ce culte le méprisait. Et le frère nous a fait remarquer tout à l'heure qu'il plaçait même le gouverneur, leur propre gouverneur, au-dessus de Dieu. Mais néanmoins, ce que l'on peut voir quand même dans ce livre, c'est que le livre parle plus de Dieu qu'il ne parle du peuple. Et même, c'est essentiellement Dieu qui parle dans ce livre. Si vous regardez du premier verset jusqu'à la fin, c'est pratiquement Dieu qui parle. Alors, la forme, c'est une forme de dialogue un peu, quand même, assez vif d'ailleurs. Mais quand on lit bien, on voit que c'est Dieu qui parle essentiellement dans ce livre. Et donc, c'est très important d'écouter ce que Dieu a à dire. Nous trouvons par exemple l'expression « dit l'Éternel » plus de 22 fois dans un tout petit livre de 4 chapitres, vous imaginez, hein ? Ainsi parle l'Éternel, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées. Et on trouve cela constamment, on va pas les voir tous, mais dans ce livre. Et donc, c'est Dieu qui parle pratiquement directement, et le premier verset le dit, hein. Il dit, oracle, parole de l'Éternel adressée à Israël par Malachi. Et puis, tout le reste du temps, eh bien, c'est Dieu qui s'exprime à travers ce livre. Et même si Malachi décrit de manière précise l'infidélité du peuple, ce qui est mis en avant, selon moi, dans ce livre, c'est vraiment la fidélité de Dieu à son alliance. Et donc Dieu, si vous regardez, fait plusieurs fois allusion, chapitre 2 par exemple, regardez verset 4 à chapitre 2 verset 4. Il dit ici, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Verset 5, mon alliance avec lui était une alliance de paix et de vie, pardon, et de paix. Et regardez aussi au verset 8, il dit, vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi. Et puis au verset 10, il dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Chapitre 2, verset 14, il est dit ici, vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et puis vers chapitre 3 et au verset 1 aussi, il est question, on l'a lu tout à l'heure, du messager de l'alliance. Et voici le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Donc ici, ce livre parle quand même beaucoup d'alliance, un petit peu, d'alliance violée, d'alliance de Dieu qui a été donnée, du messager de l'alliance qui viendra. Et donc, j'ai intitulé un peu ce survol un peu « Dieu demeure fidèle à son alliance ». Si on veut résumer un petit peu à ce que dit ce livre, c'est peut-être une pensée « Dieu demeure fidèle à son alliance ». Et donc on pourrait presque résumer cela par ce verset de Paul à Timothée qui dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle ». Car il ne peut se renier lui-même. Et donc, quand on lit un petit peu le livre, on a un peuple qui est infidèle, mais à travers cela, on a un Dieu qui se révèle comme un Dieu fidèle et qui garde son alliance. Et donc, le résumé pourrait être ceci, Dieu demeure fidèle à son alliance. Alors, on va regarder quelques aspects quelques aspects très rapidement. Premièrement, ce que l'on peut voir dans ce livre, c'est que Dieu déclare la réalité de son alliance d'amour. Dieu déclare la réalité de son alliance d'amour. Le livre ne s'ouvre pas avec des remontrances tout de suite, mais avec une déclaration forte. Regardez au verset 2, il dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Dieu ne dit pas qu'il a aimé le peuple et qu'il ne l'aime plus. Ici, hein. Il ne dit pas cela. Il ne dit pas non plus qu'il a aimé ce peuple, d'accord. Excusez-moi là, j'ai perdu ma ligne là. Voilà. Donc, il dit pas qu'il a aimé ce peuple et qu'il ne l'aime plus maintenant. Il aime toujours, bien sûr, ce peuple. Et il charge Malachi de leur dire cela, qu'il les aime et qu'il les aime continuellement. Mais Dieu dit plus que le fait qu'il aime ce peuple. Il ne parle pas seulement de son amour, on pourrait dire, pour les personnes qui sont là devant Malachi, mais il parle d'un amour bien plus grand, un amour qui a commencé bien avant que eux ils soient là. Il dit ici, quand il dit je vous ai aimé, il ne dit pas voilà, je vous ai aimé, je ne vous aime plus, d'accord? Mais il dit beaucoup plus que cela. Il ne dit pas simplement je vous aime, vous particulièrement, mais il dit je vous ai aimé et il y a bien longtemps que j'ai pris l'engagement de vous aimer. D'ailleurs, cela se voit bien lorsque le peuple pose la question. Ici, il dit, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? La réponse normale eût été de dire, ben, je vous ai délivré de Babylone. Je vous ai délivré de l'esclavage, je vous ai ramené ici, je vous ai permis de reconstruire le temple. Et c'est pas ça que Dieu dit. Dieu ramène ici sa réponse, sa preuve à Jacob. C'est ce qu'il dit, regardez. Ici, il dit, Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, et cependant, j'ai aimé Jacob. Donc, il parle ici d'un amour qui est rattaché à une alliance qu'il a établie. Alors, si on regarde dans le chronogramme qu'on a là, bien plus de 1000 ans auparavant. Donc Dieu parle, dit à ce peuple que l'amour qu'il a pour lui est une conséquence d'une alliance qu'il a contractée il y a bien longtemps. Et donc il déclare en quelque sorte la réalité de son alliance d'amour. Voici en quels termes, par exemple, Moïse parle aux enfants d'Israël quand il leur rappelle ce que Dieu a fait pour eux. Ne cherchez pas, mais dans Deutéronome chapitre 4, verset 31, par exemple, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point, qui ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Et lorsque Dieu parle souvent au peuple d'Israël, il parle souvent en vertu de l'alliance qu'il a établi avec les pères. Et le bien qu'il leur fait, l'amour qu'il leur manifeste, est rattaché à une alliance. Deutéronome chapitre 4, verset 37, il dit, « Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. » Vous voyez, donc c'est l'amour que Dieu a pris par alliance pour le peuple, pour les pères, qui se manifeste maintenant envers ceux qui sont là devant Malachi. Deutéronome 18, verset 8, verset 18, par exemple, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Deutéronome j'ai la même référence, donc j'ai dû me tromper des voix, mais en tout cas, il y a un passage qui dit « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est à eux, c'est à leur postérité, c'est à vous, c'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. » Et puis un dernier verset dans 2 Rois, chapitre 13, il est dit « Azaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz, mais l'Éternel leur fit miséricorde. Il eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. » Donc, voyez, lorsque Dieu dit ici, je vous ai aimé, il dit pas, voilà, je vous ai aimé, mais maintenant à cause de ce que vous faites, je ne vous aime plus. Il dit pas simplement, voilà, je vous aime. Mais il dit, vous êtes aimé en vertu d'une alliance que j'ai contractée avec vos pères. Il y a longtemps que j'ai décidé de vous aimer. Et donc, ça n'est pas simplement un amour qui dépend de ce que vous êtes. C'est un amour qui dépend d'une alliance que moi, j'ai contractée. J'ai choisi librement de vous aimer. Donc, on reviendra plus en détail sur cet amour, on pourrait dire, électif et souverain de Dieu. Mais ici, ce que je veux faire remarquer, c'est que Dieu déclare fortement ici une alliance d'amour avec ce peuple. Et c'est comme cela qu'il introduit, on pourrait dire, hein, cet échange qu'il y aura, cette prophétie qu'il apporte à ce peuple par l'intermédiaire de son prophète Malachi. La raison de l'amour de Dieu ne se trouve pas dans les individus que Dieu choisit, mais dans la fidélité de Dieu à l'alliance qu'il a contractée. Dieu englobe sa relation, toujours la relation qu'il entretient avec son peuple, dans une alliance qu'il a contractée par un choix souverain. Et il veut que le peuple sache cela. Dieu ne m'aime pas en vertu de ce que je suis, mais il m'aime en vertu de son alliance qu'il garde fidèlement. Il est le Dieu qui ne se rétracte point, qui ne change point, on va le voir un petit peu plus tard. Donc il n'y a pas d'amour pour nous en dehors d'une alliance. Il n'y a pas d'amour pour nous en dehors de la nouvelle alliance. Jésus avait dit à ses disciples, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Le sacrifice de Christ, c'est la nouvelle alliance. Et c'est en vertu de ce sacrifice-là que Dieu nous aime. Il n'y a pas d'amour de la part de Dieu pour nous en dehors du sacrifice de Jésus-Christ. Et donc c'est ce que Dieu exprime ici. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est toujours rattaché à ce que Dieu a fait, que Christ a fait sur la croix du calvaire. Donc à la nouvelle alliance ici. Il faut donc considérer cette alliance d'amour qui a été scellée par le sang de Christ, et nous dit l'Épître aux Hébreux, et qui qualifie cela d'une alliance éternelle. Hébreux chapitre 13 et au verset 20. Donc si nous voulons être aimés, nous ne pouvons pas l'être en dehors d'une alliance. Dieu aime en vertu de ce qu'il a contracté lui-même comme alliance. Ça, c'est la première chose, je pense, qu'il dit ici à ce peuple. Il dit qu'il les, il ramène cet amour à Jacob et Ésaü et au choix souverain qu'il a fait de l'un par rapport à l'autre et un choix libre qu'il a contracté. C'est lui qui a choisi d'aimer. Et il dit, et il le dit clairement au peuple pour qu'il le sache. Ce peuple qui pensait dans tout ce qu'il faisait qu'il pouvait et qu'il devait être aimé de Dieu. Il avait droit à l'amour de Dieu. D'ailleurs, il le reproche. Hein, en quoi nous as-tu aimé? C'est-à-dire que je vois pas où est-ce qu'il y a les preuves de ton amour. Eh bien, Dieu fait remarquer que son amour est attaché à une alliance qu'il a contractée. Et ça, c'est une chose qui est importante. Deuxième chose que l'on peut voir à travers ce livre ici, c'est que Dieu manifeste aussi sa fidélité en exposant la violation à son alliance. C'est ce qui relevait un petit peu dans ce livre. Dieu aurait pu laisser le peuple sombrer dans un état spirituel pitoyable. Mais sa fidélité à son alliance exige qu'il expose le péché du peuple qui viole cette alliance. Toute la relation entre le peuple d'Israël et Dieu est basée sur une alliance. Si vous lisez, tapez juste dans une concordance le mot alliance et vous allez voir hein, le nombre de fois où ce mot intervient. Quand Dieu parle avec Noé, quand il le sauve dans l'arche, il dit qu'il fait avec lui une alliance. Et avec le peuple d'Israël, dans le livre d'Exode, il est beaucoup question de cette alliance que Dieu établit avec ce peuple. Exode chapitre 24, versets 7 et 8, je vais lire cela. Exode 24, versets 7 et 8. Ne cherchez pas, je vais vous lire. Il est dit que Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Et de là, toute la base de la relation entre le peuple d'Israël et Dieu est sur une alliance, repose sur une alliance. Et donc, quand ils agissent d'une manière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est qu'ils brisent et qu'ils violent cette alliance que Dieu a contractée avec eux. Et donc le reproche que fait les sacrifices que fait Dieu au sacrificateur est vraiment celui de violer son alliance. On a lu chapitre 2 verset 8. Il dit: vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu exprime les péchés du peuple, non pas simplement en énumérant les péchés les uns après les autres, mais en les englobant dans quelque chose qui est une violation de l'alliance que lui a contractée. Et cette violation se manifeste dans le culte, donc dans l'adoration, et puis on pourrait dire dans la vie sociale, essentiellement dans le mariage. C'est ce que l'on voit ici. Donc comment, on pourrait voir un petit peu très rapidement, quelles sont ces manifestations, ces péchés que Dieu met en évidence ici dans la relation, dans la vie de son peuple. Premièrement, je crois qu'il y a la condamnation, ici il condamne beaucoup de choses, et parmi la condamnation d'un esprit de contestation systématique. Si vous lisez le livre, vous allez voir que il y a à peu près 7 fois, je crois, où Dieu dit, où Dieu affirme un péché et où le peuple conteste le péché. Et souvent, cette expression revient en croix. Vous allez regarder au chapitre 1, verset 2, par exemple, chapitre 1, verset 2. Dieu dit: je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites: en croix nous as-tu aimé. Chapitre 1, verset 6, il dit: un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dieu dit: vous méprisez mon nom. Ils répondent: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Regardez au verset 7. Il dit: vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? Et puis regardez au chapitre 2 et au verset 17. Il dit: vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites: en quoi t'avons-nous fatigué? Chapitre 3, verset 7, ici. Il dit: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Puis regardez au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Puis Dieu dit: dans les dîmes et les offrandes. Et puis au chapitre 3, verset 13, il dit: vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites: qu'avons-nous dit contre toi? Voyez, ce peuple qui conteste chaque affirmation de Dieu. Un esprit vraiment de contestation systématique, un esprit qui rejette ce que Dieu dit lui-même, ce que Dieu dit au peuple. Ésaïe 45, verset 9 dit: malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Quand Dieu dit: voilà ce que vous faites, il dit: qui êtes-vous pour dire non? Ça n'est pas juste. C'est un petit peu ce que le peuple dit. Dieu dit: je vous ai aimé. Il dit: non, tu ne nous as pas aimé. Dieu dit: vous me trompez. Ils disent: non, on ne te trompe pas. Dieu dit: vous me méprisez. Ils disent: non, on ne te méprise pas. Où est-ce que tu as vu cela? Et c'est un peuple qui conteste avec Dieu. Et ça peut nous arriver. C'est une pensée qui est bien courante de nos jours. On dit que la France est le pays de la contestation. On râle beaucoup, on conteste beaucoup. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir cette attitude de contestation vis-à-vis même de la parole de Dieu. Et faire preuve de cet esprit de contestation, ne pas reconnaître notre péché lorsqu'il nous est montré. On peut dire: non, ça c'est pas un péché, non, je ne fais pas ça. Pourquoi tu dis que je pêche? Pourquoi tu dis que je fais ça? Ça n'est pas péché que de faire cela. Et lorsque la parole de Dieu nous révèle des choses, on peut avoir cette attitude qui consiste à contester. Deuxième chose que Dieu condamne parmi d'autres, c'est vraiment le culte, un culte méprisant. Ce peuple rendait à Dieu un culte méprisant. Regardez chapitre 1, verset 6, il dit que c'est un culte sans honneur. Où est l'honneur qui m'est dû? Ce peuple adore Dieu, mais d'une manière qui n'honore pas Dieu. Ce peuple adore Dieu d'une manière dans laquelle il ne craint pas Dieu. Où est la crainte que l'on a de moi? Un culte qui méprise Dieu, on pourrait dire, par la nature impure des sacrifices qui sont offerts. On l'a lu, le frère l'a lu tout à l'heure. Ici, les versets 1, chapitre 1, verset 7, Dieu dit ceci, « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. » Chapitre 1, verset 8, il dit, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ?» Chapitre 1, verset 13, il dit aussi, « Vous dites, quelle fatigue, vous dédaignez le service de l'Éternel. Vous dites que la table de l'Éternel est souillée, qu'elle est méprisable. Et cependant, dit-il verset 13, « Vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. » Ce sont les offrandes que vous faites. Donc ce sont des offrandes qui sont des offrandes ici impures. Et donc ces sacrifices impurs étaient interdits par la loi. On ne va pas prendre le temps de lire, mais dans Deutéronome chapitre 15, verset 21 par exemple, il est question d'offrir à Dieu ce qui est pur et ce qui est sans défaut. Et jamais les bêtes qui sont malades, chétives ou impures. Et donc c'est mépriser Dieu que de lui offrir ce qui est non conforme à sa volonté. C'est mépriser Dieu quand on lui offre ce que l'on n'oserait pas offrir à son patron ou au maire de sa commune par exemple. Et Dieu n'a pas besoin, on l'a lu tout à l'heure, de sacrifices. Et le peuple agit comme si Dieu avait tant besoin de sacrifices que qu'importe ce qu'on offre, pourvu qu'on l'offre. Et on peut avoir cette attitude aussi à l'égard de Dieu. Et le passage a été lu tout à l'heure, mais on peut le revoir dans Psaume 50. Psaume 50, Dieu dit ceci, au Psaume 50, il dit à ce peuple, à partir du verset 7, il dit, écoute mon peuple, je te parlerai Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, et puis il ajoute ton Dieu. Je suis Dieu, de manière absolue, et je suis ton Dieu, de manière particulière, ici. Verset 8, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi, je ne prendrai pas de tes taureaux, de ta maison, ni de ton bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme est à moi. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Dieu dit, moi je n'ai pas faim. Et parfois, on peut s'approcher de Dieu comme si, voilà, il a faim. Dieu a besoin de moi. Il a besoin que je sois là. Donc, je vais au culte le dimanche, je vais à l'étude biblique le mardi, je vais distribuer des traités, je vais prêcher, parce que si je ne le fais pas, comprends, Dieu sera en manque. Dieu dit, il n'a pas besoin de nos sacrifices. Il dit même, regardez au chapitre 1 qu'on a lu, au chapitre 1, pardon, verset 10, il dit, lequel de vous, Malachie 1, verset 10, lequel de vous fermera la porte pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Il dit, je préfère que vous fermiez la porte du temple. Dieu préfère qu'il y ait des églises, des salles de réunion qui se ferment plutôt que des salles ouvertes où l'on adore, où l'on offre un culte qui méprise sa grandeur. Et c'est ce qu'il dit à ce peuple ici. Il dit, qui est-ce qui va avoir cette bonne attitude de fermer au moins les portes pour que personne n'y rentre et pour qu'on ne souille pas, qu'on ne méprise pas mon nom dans votre adoration. Il dit, je ne prends pas plaisir, verset 10 toujours, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Vos offrandes, les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Et donc, c'est important ici de voir que Dieu relève la manière avec laquelle le peuple viole cette alliance par l'offrande d'un culte méprisant. Donc, un culte qui méprise Dieu par l'impureté des sacrifices qui sont offerts. Un culte qui méprise Dieu par une disposition dédaigneuse des sacrificateurs. Regardez ce qu'il dit au chapitre 1, verset 5. Il dit ici, cherchez à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. C'est verset chapitre 2, verset 7. Voilà. J'ai mal noté la référence. Pardonnez-moi. Oui. Cherche le verset qui dit « À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. » Parce que les sacrificateurs, le peuple méprisait Dieu par les sacrifices qui étaient offerts. Les sacrificateurs aussi acceptaient ces sacrifices et les offraient. Et donc Dieu dit ici qu'il méprise son nom. Verset 6, il dit l'Éternel désarmé, voilà, verset 6, au milieu du verset 6, il dit « À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. » Donc chapitre 1, verset 6. Et qui dit, en quoi t'avons-nous méprisé? Et donc, Dieu soutient ici explicitement que les sacrificateurs même le méprisent. Et il nous fait voir ce qu'ils disent, pas forcément verbalement. Ils disent pas, nous méprisons l'Éternel. On ne dit jamais cela. Nous lui offrons exprès des sacrifices impurs. Mais il dit, par ce que vous faites, par la manière avec laquelle vous le faites, vous êtes en train de mépriser mon nom. C'est comme si vous le dites. Et en tout cas, moi, je l'entends. Et c'est ainsi que cela parvient à mes oreilles. Chapitre 1, verset 7. Ici, il dit, vous profanez, vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Chapitre 1, verset 12, il dit, mais vous, il parle ici de la table, vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillé. Donc ces sacrificateurs officiaient avec un certain dédain. Regardez au verset 12, il dit « Vous le profanez en disant « La table du Seigneur est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Vous dites « Quelle fatigue !» et vous le dédaignez. Et le mot « dédaigner », c'est un peu, c'est le même mot pour dire « souffler ». Et vous avez déjà vu quand quelque chose nous pèse, qu'est-ce qu'on fait? On fait, ça me pèse. Ça me pèse d'aller au culte. Ça me pèse de devoir faire ceci. Et on peut avoir des attitudes comme ça. Bon, il faut se lever le matin, mais quelle fatigue! Quelle fatigue! Alors, on ne le dit pas comme cela, forcément. Mais Dieu, il l'entend. Dieu entend plus que ce que nous disons. Dieu voit plus que ce que nous faisons. Et Dieu comprend plus que ce que nous pensons. D'accord. Donc, et c'est important de voir ici que Dieu montre ici que cette disposition dédaigneuse des sacrificateurs, eh bien, le méprise. Il dit aussi que le culte est méprisant parce que les sacrificateurs donnent une mauvaise dispense, une dispense pervertie de la loi. Regardez au chapitre 2, verset 2. Aussi, chapitre 2, verset 2. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai aussi vos bénédictions. Je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai, il parle ici aux sacrificateurs, voici, verset 3, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. On vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel. Il parle de son alliance qu'il avait fait avec Lévi. Il dit, mon alliance avec Lévi était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie et vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Donc, ils dispensaient de manière pervertie la loi. Ils annonçaient d'une manière qui ne glorifiait pas Dieu, verset 2. Il dit, vous ne donnez pas gloire à mon nom. Ils étaient une cause de chute, verset 8, vers chapitre 2, verset 8. Il dit, quand vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Et puis, il dit aussi qu'ils cherchaient l'approbation des hommes lorsqu'ils prêchaient la loi. Regardez au verset 9, à la fin, il dit, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Et c'est quelque chose qu'on peut voir encore de nos jours, hein, dans beaucoup de lieux où on prêche la parole en faisant ou la manière de prêcher est fonction de l'assistance. Hein. Donc on fait attention aux gens lorsque l'on prêche la parole. On cherche l'approbation des hommes et où aussi la parole est prêchée d'une manière qui cause la chute de beaucoup parce qu'elle n'est pas prêchée avec fidélité. Et Dieu dit ça c'est rendre un culte méprisant. Néhémie faisait face à cette même époque, à ce même problème dans l'assemblée. Il disait, souviens-toi, ô mon Dieu, de certaines personnes, souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites qui devaient prononcer et dispenser droitement la parole de la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit qu'un ouvrier doit, que lui, il devait dispenser droitement la parole de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on pense que le sens, ça veut dire qu'il fallait, un peu, Paul était un tailleur il faisait des tentes, hein. Donc il fallait découper convenablement. Il dit donc, quand on dissèque la parole de Dieu, quand on l'enseigne, quand on l'apprend, il faut le faire droitement. Et ici, Dieu reproche au sacrificateur de le faire d'une manière qui n'est pas droite, d'une manière qui cherche l'approbation des autres, d'une manière pervertie, d'une manière qui ne lui rend pas gloire. Et puis, je veux dire dernièrement, un culte qui méprise Dieu, c'est un culte qui vole Dieu sans scrupule. Je crois que Dieu montre cela. On va revenir sur ce thème de la dîme, mais regardez au chapitre 3 et au verset 8. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Et c'est peut-être un des domaines, l'argent dans lequel on peut rendre un culte méprisant à Dieu. On peut mépriser Dieu avec la manière à laquelle on rend un culte en ayant un rapport particulier aussi à l'argent. Hein. Et donc on va revenir sur ce thème qui est très important, je crois, aussi pour nous. Donc un culte méprisant pour comme ce que Dieu condamne ici. Et puis une autre chose que Dieu condamne, on pourrait dire, c'est un esprit de profanation dans l'alliance du mariage. Et je crois que ce passage est très, très fort dans le chapitre 2 ici. Dieu adresse ici d'une manière vigoureuse ici deux violations spécifiques qui étaient en cours là chez le peuple. Et il pointe très sévèrement cela du doigt. Premièrement, il parle du mariage mixte et deuxièmement, il parle du divorce. Alors, quand on parle de mariage mixte, il ne s'agit pas de mariage entre deux personnes de couleurs différentes. C'est pas de ce qu'il s'agit ici. Il s'agit ici de différences sur le plan spirituel. C'est un mariage mixte spirituellement. Judas dit s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël, chapitre 2, verset 11, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Et il a fait quoi? Il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. Il s'est uni à une fille qui adore un autre dieu. D'accord? On pourrait, si on transfère cela à notre époque, on peut dire, voilà, il s'est uni à une fille qui n'est pas chrétienne. C'est exactement ça que ça veut dire. Hein? Si on transfère de nos jours. Et regardez ici comment Dieu parle en termes forts, il dit que c'est une abomination, premièrement. Judas a commis une abomination. Et deuxièmement, il dit Judas a profané. C'est à la fois une abomination et une profanation. D'accord? Parce que Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Donc, la fille chrétienne, ou le, pour mettre à notre époque, le mari chrétien, l'homme, avant d'être marié, l'homme chrétien, la fille chrétienne, appartiennent à Dieu, sont consacrés à Dieu. Quand Dieu sauve, quand il arrache de l'enfer, c'est pour consacrer à lui. L'apôtre Paul disait, vous avez été rachetés à grand prix et glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc, associer ici ce qui appartient à Dieu avec ce qui n'appartient pas à Dieu, il dit ici que c'est une abomination et c'est une profanation. Et Dieu est un Dieu qui ne change pas. Ce qu'il dit là, à cette époque, est encore valable et à notre époque. Et donc nous, et l'apôtre Paul disait, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc je ne vais pas revenir, on ne va pas venir aujourd'hui sur ce thème, mais c'est une question sur laquelle vous pouvez réfléchir déjà. Contracter un mariage avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur. Hein? Jeunes gens, jeunes filles. Voilà ce que Dieu pense de cela. Ne croyez pas que Dieu a changé sur ce point-là. Il pointe cela fortement parmi certainement d'autres choses qu'il aurait pu pointer chez ce peuple. Et puis deuxième chose qu'il vise encore, c'est le divorce. Donc le mariage mixte et puis le divorce. Verset 13 à 16, c'est ce que nous lisons ici. Donc il dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous couvrez de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de votre main. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, je hais le divorce, c'est pareil, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Et ce qui semblait se passer ici, c'est que ces hommes de Juda divorçaient de leur épouse juive pour épouser des filles païennes. Et comme le texte est écrit, parce qu'il est question d'être fidèle à la femme de sa jeunesse, on peut supposer qu'ils avaient déjà un certain âge et qu'ils divorçaient pour épouser des femmes aussi plus jeunes, hein, et qui étaient de l'autre côté. Et donc, voilà, il y a deux choses ici, hein, le mariage mixte, mais avant de pouvoir le faire, il fallait ici pour eux divorcer. Et Dieu condamne fortement aussi cela. Et regardez aussi en quels termes il décrit son sentiment face à cela. Il dit, je hais la répudiation. Il dit pas, bon... Si vous pouvez pas faire autrement, oui, mais sachez que, il dit, je hais la répudiation. Il l'a en horreur. Il dit, faites attention, prenez garde à votre esprit. On reviendra aussi sur ces choses un peu plus tard. Et puis, une autre condamnation ici que l'on peut voir, c'est la mise en cause de la gouvernance de Dieu. Le peuple viole l'alliance de Dieu, mais en mettant en cause la manière avec laquelle Dieu gouverne. Regardez le verset, chapitre 2, verset 17. Il dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigué? Regardez ce qui fatigue Dieu. Il dit, c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voilà, donc ce peuple regardait ce qui se passait autour de lui. Et puis il avait l'impression que le méchant prospère. Le chant du méchant rapporte, peut-être que, et puis le leur, ça ne marche pas très bien. On l'a vu quelque part où Dieu dit, voilà, je vais jeter le mépris sur vous. Donc, ils sont dans une situation probablement difficile à cause de leur désobéissance. Ils regardent à côté le méchant, lui, il prospère. Et puis ils disent, voilà, on devait construire le temple. Il était dit dans Agé, reconstruisez le temple et j'en aurai du plaisir. La gloire de Dieu va revenir, on la voit pas revenir. Et puis voilà, le méchant, il est là à côté et puis il prospère. Il ne lui arrive rien. Eh bien voilà, moi je crois que celui qui fait le mal, eh bien Dieu trouve que c'est bien. Voilà comment Dieu exprime ici le raisonnement du peuple. Et ils disent où est le Dieu de la justice. Donc c'est une accusation sur la manière de gouverner de Dieu, comment Dieu gouverne les choses. Et ils ont une vision ici qui est une vision qu'on pourrait qualifier à court terme, un horizon vraiment rétréci, où ils jugent Dieu par les circonstances qu'ils voient autour d'eux. C'est vraiment c'est indigne de la part d'un enfant de Dieu d'agir ainsi. Mais parfois, nous agissons aussi ainsi. Et ils ont oublié que l'histoire a commencé avant eux et que l'histoire continuera aussi après eux. Et qu'on ne peut pas mesurer l'œuvre de Dieu par les circonstances présentes que nous pouvons voir autour de nous. Et donc, regarder la prospérité du méchant et puis conclure que Dieu aime le méchant et qu'il trouve bien ce qu'il fait, c'est un non-sens. Et dire que ce n'est pas juste et que Dieu n'exerce pas sa justice comme il le devrait, c'est vraiment se moquer de lui ici. Et donc Dieu dit ici, voilà, que ce peuple méprise par cette manière de considérer les choses, de le considérer ou de considérer son œuvre dans la vie. Donc un tel regard sur les choses a pour conséquence souvent d'accuser Dieu d'injustice. Quand on regarde une situation chez un autre et puis chez nous, et parfois on peut être amené à dire mais ça c'est pas juste. Je pense que Dieu n'agit pas justement envers moi. Je me lève tous les matins, je fais des efforts, je lis ma Bible, je prie, je témoigne. Et puis voilà, je connais que les difficultés. Et lui, voilà, il a une vie comme ça et tout semble bien marcher pour lui. C'est pas juste quand même. C'est quand même pas juste. Il n'y a quand même pas de justice vraiment. Et Dieu, peut-être qu'il y a des choses qui lui échappent de ce côté-là. Et c'est un petit peu ce que faisait le peuple ici. Et quand on agit comme cela, on accuse Dieu d'être injuste. Où est le Dieu de la justice? Et c'est quelque chose qui méprise Dieu et qui c'est une violation un peu de cette alliance que Dieu a contractée avec le peuple. Et donc, dans le souci de demeurer fidèle à son alliance, Dieu expose vraiment le péché du peuple ici dans ce livre de Malachie. Et il le fait non pas pour nous montrer seulement comment est ce peuple, mais pour nous montrer aussi comment nous sommes et que nous devrions faire attention aussi à notre manière d'analyser les choses, à notre culte, à notre manière de vivre dans les relations sociales. Nous ne devons pas nous laisser impressionner et influencer par ce qui est en vogue dans notre société, mais comprendre et rester attaché fidèlement à ce qui est la loi et la parole de Dieu. Du point de vue du peuple, son adoration était conforme. Ils offrent des sacrifices, ils font des choses, mais du point de vue de Dieu, elle était non conforme, elle était une abomination, elle était une profanation. Et donc c'est du point de vue de Dieu que se mesurent les choses, et jamais de notre point de vue, ni du point de vue de notre société. Et je termine très rapidement en disant, deuxièmement, que Dieu manifeste aussi sa fidélité en réaffirmant l'immuabilité de son alliance. Il déclare premièrement au peuple son alliance d'amour, « Je vous ai aimé ». Il leur montre que vous avez violé mon alliance. Mais il leur dit aussi, voilà, je suis celui qui ne change pas. Et je trouve ce message très boudant dans Malachie. Regardez au chapitre 3, verset 6. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Et donc Dieu manifeste, il réaffirme l'immuabilité ici de son alliance. Il faudrait lire chapitre 2, verset 17, jusqu'au chapitre 4, verset 6, mais on n'a pas le temps de le faire pour voir cela. Mais la grande vérité que Dieu replace devant le peuple, c'est vraiment le fait que ses promesses, son alliance est immuable. Il est l'Éternel qui ne change pas. Et la preuve de cette preuve de cette immuabilité, c'est la préservation des enfants de Jacob. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumé. Il y avait toutes les raisons pour qu'ils soient consumés, pour que Dieu les détruise après une telle profanation. Mais il dit, je vous ai gardé, je vous ai aimé, parce que j'ai fait alliance ici avec Jacob. Et vous êtes dans cette alliance d'amour, je vous ai aimé. Je ne vous ai pas consumé, parce que je suis le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui reste fidèle à son alliance. Et pour répondre à ce peuple qui le qualifiait d'injuste, Dieu dit au verset 3, il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il dit, où est le Dieu de la justice? Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, dit l'Éternel des armées. Mais il ajoute, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il fondra, purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme les anciens, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. C'était extraordinaire ce passage quand même. On voit que Dieu parle à ce peuple qui profane son alliance, à qui il dit, je ne prends pas plaisir dans vos offrandes et dans vos holocaustes, qui est quelqu'un qui ferme la porte du temple pour qu'on n'allume pas un feu étranger sur mon autel, mais qui dit, mon messager vient, il va vous purifier et vous allez pouvoir à nouveau offrir des sacrifices qui sont dignes de moi. Alors l'offrande, verset 4 de Juda et de Jérusalem, sera agréable à l'Éternel. Remarquez ici que Dieu confirme la venue du messager de l'Alliance, qui est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ, d'abord précédé par Jean-Baptiste, on ne développe pas cela, mais c'est ce dont il est question ici. Et il dit que le messager de l'Alliance sera comme un feu affineur, le feu de l'affineur, le feu du fondeur. Donc il va venir pour purifier son peuple. Et il faut qu'il y ait cette purification du peuple pour que le peuple soit rendu capable d'adorer Dieu comme il doit l'adorer. Il faut être purifié. On ne peut pas adorer Dieu, le servir, si on n'est pas purifié. L'apôtre Paul disait à Timothée, à Tite, que Dieu, Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, et vous vous rappelez la suite, purifié par lui pour et zélé pour de bonnes œuvres. Et quand il vient, et c'est ce que Christ a accompli en venant à la croix, quand il sauve, nous, la Bible dit même qu'il purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Donc on a besoin d'être purifié. Quand il dit le messager de son alliance, celui qui va sceller son alliance de son alliance qu'il a contractée, sur laquelle il ne revient jamais, eh bien il dit il va vous purifier. Parfois ça va être douloureux la purification, hein, parce que c'est le feu de la purification, c'est pas l'huile de la purification. Donc ça peut être parfois dans la douleur et je crois que souvent ce que l'on peut voir ici c'est que ce peuple est dans une espèce d'indolence et de culte négligent parce que en fait il n'y a pas de persécution, il n'y a rien, ils sont dans une phase où il y a une paix relative. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, eh bien je crois que c'est le frère Timothée qui nous faisait remarquer quand on avait fait les séries là sur l'histoire de l'Église, eh bien souvent l'Église s'est purifiée au travers de la persécution. Il a fallu parfois qu'il y ait cette souffrance de la persécution, d'autres types de souffrances pour que l'enfant de Dieu soit purifié, qu'il passe au creuset comme passe l'or dans le creuset, pour qu'il soit rendu capable de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le confort que nous pouvons connaître, peut-être ici, c'est ce que nous pouvons apprendre, un danger à la réalité de notre adoration envers le Seigneur Jésus-Christ. On verra, je termine là-dessus très rapidement. Il est dit qu'il purifiera les fils de Lévi. Il n'est pas dit qu'il purifiera tout le monde. Certains seront purifiés, mais d'autres seront consumés. C'est ce que nous enseigne ce passage. Regardez au verset 5, il dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du meurtrier, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne craignent pas, qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Et puis aussi, un peu plus loin, chapitre 4, verset 1, aussi, il dit « Car le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour vient et les embrasera, dit l'Éternel des armées. » Verset 3, il dit « Vous, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Et donc, il y a deux catégories de personnes ici. Il y a les fils de Lévi, et puis il y a ceux qui ne sont pas les fils de Lévi. Il y a ceux que Dieu a aimés en Jacob, et puis il y a ceux qu'il n'a pas aimés en Jacob. Et il dit, les uns seront purifiés afin qu'ils me servent, mais les autres seront pour le feu et pour être consumés. Et puis il parle de la réalité de la différence, je passe là-dessus. Mais je termine avec quand même cette pensée, il est nécessaire, Dieu montre ici, si le Seigneur dit cela, s'il révèle cela, ce n'est pas simplement pour faire peur à ce peuple, mais c'est pour l'appeler à la repentance. C'est pour l'appeler à la repentance. Chapitre 3, verset 7, il dit « Revenez à moi ». Le messager qui vient avant, le messager de l'Alliance, le messager qui vient avant le messager de l'Alliance s'appelle Jean-Baptiste. Et le message de Jean-Baptiste, c'est le message de la repentance. Il est venu en disant au peuple, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et lorsque nous lisons ce passage, nous devons entendre, repentez-vous, parce que le Seigneur, le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur va revenir. Il ne s'agit pas de sa première venue, mais de sa seconde venue. Il va revenir. Ici, pour prendre avec lui ceux qui attendent son avènement. Et donc aujourd'hui, c'est un jour où nous pouvons encore nous repentir, nous tourner vers Dieu et l'adorer et le servir. Nous repentir de notre négligence dans notre manière d'adorer Dieu, mais nous repentir aussi de notre péché et venir véritablement à lui, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Quelques applications, chers frères et sœurs, la perte de vue de la souveraineté de Dieu, on le voit, conduit à une impasse spirituelle, ce qu'on voit avec ce peuple-là. On apprend aussi que nos circonstances ne doivent pas être utilisées comme des instruments pour mesurer l'œuvre de Dieu. Il faut que nous fassions attention à cela. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce et il est toujours temps de se repentir. Si Dieu révèle cela au peuple, c'est pour qu'il puisse se repentir. Il est très facile de tomber dans un culte formel et de croire que l'on fait bien. Si Dieu devait écrire à propos de nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il écrirait? Lui qui voit dans le fond de nos cœurs. Lui qui sait ce que nous disons lorsque nous ne parlons même pas. Ce que nous pensons. Qu'est-ce qu'il dirait? Dieu veut être honoré et craint en des termes et d'une manière qu'il décrit lui-même. C'est Dieu qui doit être au centre du culte. C'est ce qu'il aime qui doit être recherché. Ce qu'il honore. Pas ce que j'aime. Je ne peux pas adorer Dieu avec ce que j'aime. Lorsque j'offre à ma femme un parfum, je ne vais pas au magasin sentir si ça sent bon. Parce que je trouve que ça sent bon, mais elle trouve pas que ça sent bon. Et donc, je vais acheter ce qu'elle aime. Je sais déjà qu'elle aime. Je le sais déjà à l'avance. Et c'est ce que j'achète. Je ne prends pas la peine de sentir les autres. Ça ne va rien changer, d'accord? Et quand on adore, c'est une manière faible, mais quand on adore Dieu, on ne doit pas chercher ce qui nous plaît pour adorer Dieu. On doit chercher ce qui lui plaît. C'est lui qui doit être honoré. Que le Seigneur nous aide à lui offrir le culte qui est digne de son nom, parce qu'il est un grand Dieu. Il est le Dieu fidèle, qui demeure fidèle dans son alliance. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons de nous aider à saisir combien tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, Tu manifestes à la fois dans ce passage ta grâce en disant que tu envoies ton messager, mais en même temps tu manifestes le jugement en disant que ce jugement demeure sur ceux qui ne se tournent pas vers toi. Donne-nous de considérer ce message et de tourner nos cœurs vers toi. Sonde-nous, Seigneur, et montre-nous si nous t'adorons d'une manière qui ne te convient pas, même d'une manière qui te méprise, qui te place au rang d'un simple homme. Seigneur, touche nos cœurs par ton Esprit Saint, pour la gloire de ton nom. Amen.